Archéo, le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité, au Musée Fabre, le jeudi à 20h30 sur Divergence FM.
Les archéologues, eh bien les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfuies et enfouies.
De la tête aux pieds, la parure dans l'Antiquité sera le thème de cette nouvelle saison. Jeudi 5 février 2026, mal attifé, mal fagoté, ou quand les parures enlaidissaient les Grecs. Une conférence proposée par Véronique Mel.
Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, l'Antiquité, c'est un hasard. C'est un hasard. Il y a des gens qui disent c'est depuis qu'ils sont tout petits. Moi, c'est le hasard après la licence. Alors, je ne devais pas faire de pas de côté. Après la licence, je voulais faire de l'histoire romaine, je voulais faire de l'histoire politique, je voulais faire de l'histoire sérieuse. Et le monsieur avec qui je voulais travailler n'était pas là le jour où on donnait les sujets. Donc, je suis allée voir à côté. C'était l'histoire grecque. Et j'ai dit que je voulais faire de l'histoire sociale, de l'histoire où on faisait un peu de tout. Et voilà, on m'a proposé un sujet sur les sacrifices et sur les objets dans les sacrifices. Et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était ce que je voulais faire. Et c'est un jour de belle chaleur à Athènes, quand j'ai commencé à travailler sur le sensible, que je me suis dit, mais je sais, c'est depuis que je suis petite que je veux faire ça. Mon papa avait un ami qui s'appelait Aristote, ça ne s'invente pas, grec réfugié de l'époque des colonels. Et ce monsieur, quand j'étais une toute petite fille, me parlait beaucoup de son pays. Et j'avais totalement oublié ça. Et il me parlait des odeurs d'Athènes, de ce que ça faisait quand il faisait très chaud et quand on se baladait dans une rue. Et c'est un jour en me baladant dans une rue et je me suis dit, bah, finalement, peut-être que c'est... C'était pas un hasard si j'ai fait l'histoire de l'Antiquité. Voilà ce qui explique aussi comment je suis arrivée après à l'histoire du sensible. Et aujourd'hui, l'histoire politique, ça ne me viendrait pas à l'idée d'en faire, mais bon. Voilà. Alors, je vais tenter un pas de côté. J'aime bien de temps en temps prendre les choses à rebours. Alors souvent, vous allez voir, c'est aussi pour éclairer la norme que l'on fait des pas de côté, que l'on regarde un petit peu ailleurs. Alors, si vous êtes ici ce soir pour une conférence, c'est que vous êtes des habitués des musées, des expositions. Peut-être que certains de vous sont allés en Grèce, sont allés en Italie du Sud. Et l'image généralement que vous avez, c'est ce qu'Adrien a dit, elle est belle, elle est idéale. Vous pensez à des statues de marbre. Qui sont impeccables, qui sont célèbres, qui sont bien proportionnés. Les corps sont toujours jeunes, athlétiques, beaux, dans la force de l'âge. Quel que soit le support que l'on nous présente, la céramique est impeccable, elle est brillante. Et cette beauté, elle paraît constitutive de la civilisation grecque dans une antiquité qui a été construite par plusieurs siècles d'histoire de l'art. Et on ne compte plus... N'oublions pas les petites Tanagra. Et on ne compte plus depuis une dizaine d'années les expositions en Europe autour du beau. Il y en a eu en Suisse, en Angleterre, en Grèce, en France. Et je crois que je n'en connais pas sur la laideur. Et cette beauté, vous l'avez dans votre quotidien. Souvent, on s'en rend pas compte. Aujourd'hui, elle est aussi question de marketing. Alors, je vous montrais une seule image. Alors, j'ai choisi dans la moyenne gamme, mais beaucoup de grands créateurs réutilisent les parures grecques pour des défilés. Et puis, si vous êtes un peu moins fortuné que de vous acheter du Dolce Gabbana, peut-être que vous portez du parfum Yves Saint Laurent. Je vous ai mis ici un parfum un petit peu ancien, un Kouros, alors qui joue sur, cette fois-ci, c'est l'esthétique des temples, où le flacon rappelle les colonnes d'un temple. Mais quand on regarde... le slogan « Les dieux vivants ont leur parfum, Kouros ». Donc si vous portez du Kouros, peut-être qu'il y en a dans la salle, bah, vous êtes beau comme un dieu vivant. Et c'est décliné année après année. Il y a toute une série... sans passer par la salle de musculation, vous êtes beau comme un Kouros. Alors un Kouros, c'est un type spécifique de statue dans l'Antiquité, particulièrement au 6e et au 5e siècle. Et ces formes harmonieuses, ces beautés, nous sont rentrées aussi dans la tête. Et de la même façon que dans l'Antiquité, on se parait pour être beau, ben aujourd'hui aussi, on se pare de cette Antiquité pour retrouver cette part de beauté. Et les éléments de parure sont complets dès l'Antiquité. C'est les mêmes qu'aujourd'hui, bah, les vêtements, le parfum, les bijoux, le maquillage, tous ces éléments que l'on peut apposer sur le corps. Et dans l'Antiquité, le corps, c'est un élément extrêmement important dans la mesure où il n'y a pas de papier d'identité. Et vous portez en quelque sorte votre identité. Elle est présente au premier regard chez l'autre. Le corps, c'est ce qui va dire votre genre, votre statut, votre âge, si vous êtes un libre ou un non-libre. Et puis, il y a un autre élément qui est très important pour comprendre le corps dans l'Antiquité, c'est les liens entre esthétique et éthique. L'extérieur révèle l'intérieur. Ce que l'on voit de vous dit ce que vous êtes à l'intérieur, vos pensées, vos actes. Donc ça dit bien plus qu'une carte d'identité. Alors le corps, Adrien l'a rappelé, on s'y intéresse en tant qu'historien et historienne depuis à peu près un peu moins d'une vingtaine d'années. On a des publications qui sont très régulières. Et quand on regarde, bah, les premières choses que l'on a travaillées, c'est les corps performants et les corps qui sont beaux. Et puis, dans ces éléments, il y a à la fois le corps comme biologie, comme matière, et il y a aussi tout ce qu'on peut apposer sur le corps. Et on a travaillé essentiellement, depuis une quinzaine d'années, deux dimensions. Le vêtement, qui a beaucoup été travaillé, je pense à mes collègues Florence Guerchanoc et Valérie Huette, pour le monde romain et pour le monde grec. Et puis, on a travaillé aussi, Adrien l'a rappelé, le parfum, qui est aussi une parure essentielle pour les Grecs. Et il faut attendre, par contre, des travaux beaucoup plus récents, depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années, pour voir le regard se porter sur les autres corps. Le premier livre, c'est un livre que j'ai co-dirigé avec Lydie Baudiou et Myriam Soria, corps outragé, corps ravagé, à un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est en préparant cette conférence que je me suis rendu compte qu'on avait peu travaillé sur les parures, mais beaucoup plus sur le corps. Alors finalement, comment décrire ce que j'ai appelé dans mon titre les malatifés ou les malfagotés, qui sont ceux qui sont trop ou pas assez vêtus, trop courts, trop longs, les crasseux, les dépenaillés? Qu'est-ce que leur mauvaise allure dit d'eux? Et finalement, en creux, quelle est l'esthétique normative? Quelles sont les parures normatives des Grecs? Et je démarrerai d'un petit point pour bien comprendre comment les Grecs, eux, perçoivent les corps et comment ils perçoivent ce qui va embellir ou enlaidir les corps, de ce qu'on appelle l'échelle de perfection. Puis je ferai un petit détour par ceux qui sont mal fagotés. Et puis, je terminerai par ceux qui ne savent pas ni se maquiller, ni mettre correctement du parfum. Alors, tout d'abord, le premier élément pour se mettre dans la tête d'un Grec ou d'une Grecque, il faut imaginer leur manière de concevoir les corps selon une échelle de perfection qui va des divinités aux animaux, en passant, bien sûr, par les humains. Et tout à fait en haut, ceux qui sont beaux, naturellement, c'est les divinités, ce qu'on appelle aussi les athanatoi, les immortels. Et alors eux, ils ont ce que les Grecs appellent la charis, ce qui en français a donné le charisme, ce qui attire, ce qui irradie du corps. Et cette charis, elle est un double rayonnement, elle est visuelle et elle est olfactive. Les dieux, en principe, on les voit pas, mais par contre, quand vous les croisez, vos narines les reconnaissent. Et la parure chez les dieux, j'ai l'habitude de dire, c'est ajouter du beau au beau. C'est un espèce de bonus. Je pense par exemple à un texte dans l'Iliade, l'Iliade 14, c'est la Héra qui se part pour séduire Zeus, et elle se part de la racine des cheveux aux extrémités des orteils. Tout le corps devient encore plus lumineux, et elle récupère Zeus à ce moment-là. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé de parure qui en les dise. Il y a des dieux qui sont difformes, mais ils ont quand même cette charisme qui passe par-dessus tout. Et puis, quand on descend dans l'échelle, il y a les humains qui sont mortels et eux qui ont un cycle plus classique, donc qui se nourrissent, qui vieillissent, leur corps se déforme et puis qui finissent par mourir. Et les mortels essaient de s'embellir aussi pour attraper un petit peu de cette charisse divine. Et puis, bah, tout en bas, il y a les animaux, ceux qui sont pour la plupart considérés comme laids dans l'Antiquité. Et en français, on a gardé cette image-là, être laid comme un pou, laid comme un singe. Voilà. Alors eux, le problème de la parure ne se pose pas. Alors, quand on regarde du côté de la littérature, et j'essaierai d'aller de la littérature aux images, quand on regarde du côté de la littérature, la laideur, elle fait son entrée dans l'histoire, pas par les parures, mais par le corps. Et la laideur, elle arrive avec la littérature. Et le premier lait qu'on ait conservé dans la littérature, c'est un personnage, une sorte de anti-héros qui s'appelle Tersite, qui fait partie des guerriers, qui participe à l'expédition de Troie, pour la guerre de Troie, mais qui n'est pas un roi et qui tend à, au contraire, à embêter les rois. Et voilà le portrait qu'Homère en donne. C'est l'homme le plus laid qui soit venu sous Ilion, bigleux et boiteux d'un pied. Il a en plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s'étale un poil rare. Et puis plus loin, on nous dit, avec des cris aigus, même la voix est vilaine. Et quand on le bat, bah, il est encore plus déformé puisqu'il a des larmes qui coulent sur le visage et puis qu'une bosse lui pousse dans le dos. Mais aussi parce qu'il est vraiment... Je pensais à des images là, qui me traversaient l'esprit. Et la laideur, dans ce texte, vous voyez, elle n'est absolument pas par la parure, alors qu'il est habillé, cet homme-là. Par contre, elle passe par un statut. Il n'est pas roi. Il est querelleur, c'est donc des valeurs morales qui font de lui un laid. Et dans toute la littérature, pendant un millénaire, on va retrouver ces éléments-là. Les valeurs morales font un corps difforme, ou rendent le corps difforme. Et cette laideur, si vous l'avez entendu, elle est polysensorielle. Elle se voit, elle s'entend, et on verra que dans d'autres portraits, elle se touche, elle est vraiment complète. Et puis, alors, il n'y a pas d'image antique de Tersite, mais on retrouve des tableaux, en particulier au 19e et au 20e, qui reprennent, au 20e siècle, qui reprennent ce personnage de Tersite. Et généralement, les vêtements sont toujours montrés de la même façon. Il en a peu par rapport aux autres. Il est à moitié dénudé. Et le fait que les peintres, à chaque fois, ne montrent pas ses vêtements, c'est pour pouvoir montrer ce corps difforme. Donc lui, on lui met peu de parure pour ne pas cacher toutes ces difformités. Et finalement, ce Tersite ne fait que mettre en avant ceux qui ont un beau corps, les héros. Et si vous regardez, j'ai mis dans un tableau les éléments physiques que l'on peut retrouver du corps du héros ou du corps des laids chez Homère, et on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul élément qui concerne la parure. Tout le reste, c'est la charpente du corps, puis c'est des parties du corps, et à chaque fois, c'est en contrepoint. Là où les héros sont grands, le laid est voûté, etc. Et puis, le laid, lui, ses vêtements sont toujours qualifiés de haillons, ils sont toujours crasseux, puant, et ça s'oppose à l'armure qui, elle, est étincelante. Et souvent, on va retrouver chez Homère ce terme de charis qui va caractériser l'armure. Quand on avance un petit peu dans la littérature, on a aussi des laides. si vous vous demandiez s'il n'y avait que des laids, non, il y a aussi des femmes laides. Et la première femme laide qu'on a dans la littérature, c'est dans un grand poème de Sémonide d'Amorgos sur les femmes. Et il compare les femmes à des animaux. Et la première laide qui apparaît, c'est la femme Guenon. L'autre vient de la Guenon, c'est sans conteste le plus grand mal que Zeus a donné aux hommes. Son visage est affreux, comme Tersite. Ce genre de femme est un objet de risée pour tous quand elle sort en ville. Elle a un cou court, se déplace avec peine, n'a pas de fesses, n'a que la peau sur les os. Il est bien à plaindre qu'il tient dans ses bras une telle malheureuse. Et ensuite, on a la comparaison avec la Guenon. Donc là aussi, aucune parure. La seule parure du corps, on peut supposer, c'est le mari malheureux qui la tient dans ses bras. Parce que qu'est-ce qu'elle a, la Guenon, comme parure? Elle a des poils. Donc elle n'a pas de vêtements, elle a une parure de poils. Et la première avec une vraie parure, c'est toujours chez Sémonide, et c'est la femme truie, toujours des animaux dépréciatifs. L'une vient de la truie aux longues soies, donc on retrouve la parure pileuse. Tout dans sa maison, souillé de fange, gît en désordre, répandu par terre. Elle, sans jamais prendre de bain, en vêtements sales, assise sur un fumier, se fait du lard. Alors, on ne parle pas du mari dans ce texte-là, mais on peut supposer qu'elle est aussi un repoussoir pour son mari. Et elle a finalement, si on réfléchit, trois couches de parure, ses poils, ses vêtements et sa crasse. Elle a des parures qui sont cumulatives. Alors quand on regarde du côté des vêtements grecs, ils sont simples. Il s'agit d'une pièce de tissu généralement rectangulaire que l'on plie, que l'on drape et que l'on attache par des fibules, parfois par des boutons ou que l'on noue. Et on peut porter par-dessus une pièce de tissu plus grande qui va faire manteau. Et finalement, la distinction, ça va être éventuellement le métrage de tissu. Si on est très riche, on peut avoir des tissus plus grands, plus plissés, la qualité des étoffes, la qualité de la teinture. Mais souvent, on a des vêtements qui sont unisexes et qui peuvent se répéter dans le temps. Si on regarde du côté des citoyens, en particulier les hommes, portent essentiellement, alors parfois une tunique, mais le plus souvent, alors qu'on va appeler un chiton, mais le plus souvent ils ont un manteau. Et je vous ai mis ici une stèle funéraire qui a été découverte à Athènes. C'est un couple marié, donc il y a la femme assise sur son fauteuil, puis il y a le mari qui est en face. Et il a simplement un manteau qui l'identifie comme un citoyen. Et si vous regardez ce manteau, ce qu'il met en avant, c'est une partie de son corps qui sort, et en particulier la partie sur laquelle on peut voir les muscles. Donc c'est aussi une manière de dire qui l'on est. Ça montre ce que les Grecs appelaient le schéma, qui est passé en français, le schéma. Et ce schéma, c'est vraiment la carte d'identité. C'est à la fois ce que l'on voit, les vêtements, mais c'est aussi la manière de se tenir, la manière de parler. Et cet homme, ça veut dire qu'il a aussi des gestes mesurés. Vous l'avez tous vécu si vous avez été à la plage en Paréo. C'est pas facile de se balader avec une pièce de tissu juste attachée. Donc il faut avoir aussi cette prestance. Et c'est une manière d'incorporer des manières de se parer que d'être capable de montrer sa prestance. Et ce schéma du citoyen, on le voit répété sans cesse et sans cesse. Quand vous allez dans des musées ou des expositions sur l'Antiquité, vous allez voir cet homme qui est dupliqué. On a l'impression d'une collection de frères qui se ressemblent tous. Et un auteur du IVe siècle qui s'appelle Théophraste a écrit au IVe siècle une série de portraits qu'il appelle les caractères et dont vous connaissez souvent des descendances. C'est les caractères de La Bruyère. La Bruyère a beaucoup pioché chez Théophraste. Et Théophraste, pour décrire les citoyens athéniens, pour créer des archétypes souvent qui sont peu glorieux, il utilise les citoyens, il les met à l'assemblée, à la guerre, au marché, au banquet. Et souvent, ce qu'il va utiliser pour se moquer d'eux ou pour les décrier, c'est des éléments de la parure. Ce qui veut bien dire que s'il utilise ces éléments, c'est qu'ils sont typiques, que tout le monde les connaît et que tout le monde sait quelle est la norme. Et en détournant la norme, tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Et je vous ai pris un de mes portraits préférés, c'est le répugnant. Alors, ce n'est pas tout à fait l'heure de manger, donc ça va. Et ce répugnant, il est laid physiquement et socialement. Il entretient sans les soigner des tares héréditaires. Je vous lis le texte. « Et voici quelle sorte d'homme est le répugnant. Il ne craint pas, malgré sa lèpre, ses dartres, ses ongles tout noirs de mal, de se montrer en public. Ce sont là, dit-il, des infirmités héréditaires. » Comme s'il en était fier, d'ailleurs. « Avant lui, son père et son grand-père les ont eus, en sorte qu'il ne serait pas facile d'introduire en fraude un étranger dans la famille. Quand il a aux jambes quelques plaies ou une écorchure au doigt, il la laisse, faute de soins, s'envenimer. Il a les aisselles velues comme une bête, donc là aussi une première forme de parure, jusqu'à mi-flanc, ça déborde quand même des aisselles, les dents noires et rongées. Autre trait de même genre, et là on a pensé toujours à la polysensorialité. Autre trait du même genre, il se mouche en mangeant. Dans un sacrifice, il s'éclabousse du sang de la victime. En parlant, il vous asperge de salive. Et après avoir bu, il vous rote au nez. » Donc là, on a, si vous y pensez, en creux toutes les règles du savoir-vivre, de ce que doit être se tenir au banquet, au sacrifice. Et là, on a, mais vraiment plus loin, qui apparaissent les parures. Il va dormir dans un lit malpropre aux côtés de sa femme. Moi, j'ai toujours envie d'ajouter la pauvre. Au bain, il se sert d'une huile rance. Et là, on a une forme de parure, puisqu'une des parures, c'est l'onction d'huile d'olive. Donc, j'allais dire le plus simplement, qui ne sent que l'huile d'olive ou qui peut éventuellement être parfumée. Mais l'huile d'olive, là, j'entends que certains rient. Vous imaginez, vous, avec votre bouteille d'huile d'olive dans la cuisine, et vous trouverez que ça sent pas bon. Mais pour un grec de l'Antiquité, c'est une des odeurs les plus divines qu'on puisse avoir sur la peau. Alors lui, l'huile rance, je ne sais pas si c'est prévu l'an prochain dans l'exposition. Et puis, qu'est-ce qu'il a sur le dos ? Une petite tunique épaisse, un manteau léger, tout couvert de taches. Voilà la tenue qu'il met pour se rendre sur l'agora. Et là, dans l'attaque, c'est qu'on est bien loin du monsieur précédent, avec son imation drapée. Lui, sa petite tunique, on peut imaginer qu'elle lui arrive au-dessus du genou. Il a un petit manteau qui ne doit pas couvrir grand-chose. En creux, on a ça aussi, ce petit manteau, bien des bouts qui doivent dépasser. Et en plus, il est sale. Donc on retrouve tous ces éléments. Et là aussi, la crasse, l'huile rance, ce sont aussi des parures, et des parures qui ont les 10. Et en creux, Théophraste, quand il dresse ce portrait, ce qu'il met en avant, c'est l'absence de savoir-vivre. Et on peut même se demander si cet homme, il est digne d'être citoyen, puisque finalement, il ne sait pas se parer et se comporter comme un citoyen. Alors, je ne vais pas vous faire tout Théophraste, même si j'aime beaucoup cet auteur. J'ai regardé systématiquement quelles étaient les parures qui étaient utilisées. C'est toujours la même chose. C'est manteau et chaussures. C'est aussi parce que c'est les parures les plus communes. Alors, quand c'est les chaussures, généralement, elles ne sont pas à la bonne taille. Trop longues, trop larges, ou trop usé. Y a même un portrait où il demande pourquoi il ne va pas pieds nus tellement que ses chaussures sont usées. Pour les manteaux, généralement, c'est une question soit de saleté, soit il y a ceux qui les lavent à l'excès, ceux qui les amènent chez le foulon à l'excès, ceux qui devraient les amener plus souvent et qui ne le font pas. Et puis surtout, il y a toute une catégorie de gens, c'est ces fameux mal attifés, mal fagotés, qui ne savent pas draper leur manteau. Alors, soit c'est ceux qui ont des manteaux trop courts, quand ils s'assoient, c'est notre rustre. En s'asseyant, il retrousse son manteau au-dessus du genou sans souci de laisser voir sa nudité. Alors c'est vrai que là aussi, toutes les images que l'on a des Grecs nous renvoient à l'idée, à cette image qu'ils sont tout nus. Mais dans la réalité, si on allait sur l'agora, on ne croise personne tout nu. La nudité, elle est en un lieu, le gymnase, la palestre, et pas en dehors. Donc là, s'asseoir au marché ou autre, en faisant remonter son manteau, c'est n'avoir là aussi aucun savoir-vivre. Puis alors lui, en plus, ses chaussures, il doit les perdre parce qu'elles sont trop larges. Et en plus, comme il doit être un peu près de ses sous, il a mis des clous dessous pour pas trop qu'elles s'usent. Et puis le mesquin, bah, lui, c'est pas qu'il sait pas se draper, mais c'est quand même le tissu, ça coûte cher. Donc il a dû faire couper son métrage de tissu au plus court possible, puisqu'il porte des manteaux qui n'arrivent que jusqu'aux cuisses. Et puis lui, cette onction qui fait aussi partie de la parure, bah, elle doit pas être très abondante, puisqu'il a juste un tout petit vase pour ses onctions. Et quand il va chez le coiffeur, qui est un des autres lieux de l'apparence, bah, il doit se faire couper les cheveux très très ras, comme ça il n'est pas obligé d'y revenir trop souvent. Et puis ses chaussures, bah, il ne les met qu'une partie de la journée, ce qui évite l'usure. Le parcimonieux, puis je terminerai avec ce troisième, il porte des chaussures toutes rapetassées et dit « cela vaut de la corne ». Supposez même que ses pieds sont aussi de la corne. Et son manteau, il est vieux. Il y a d'autres endroits chez Théophraste où quand c'est un vieux manteau, c'est à la fois sale et troué. Et lui, son vêtement, il sert à tout. Puisque quand il va au théâtre, alors généralement quand on va au théâtre, vous l'avez tous vécu, si vous êtes allé dans un théâtre antique, c'est un peu dur. Donc généralement, dans l'Antiquité, on vient avec son coussin. Bah, lui, comme sans doute, un coussin, ça veut dire faire une dépense. Bah, c'est son manteau dont il se dévêt au théâtre. Il le plie et il le met sous ses fesses. Donc là aussi, c'est aussi, au-delà de la parure, c'est toujours cette idée de gens qui ne savent pas se conformer, qui n'ont ni savoir-faire, ni savoir-être. Et ne pas avoir de savoir-faire ou de savoir-être, bah, c'est être laid socialement autant que physiquement. Alors quand on regarde dans les autres catégories de personnes, qu'est-ce qu'on trouve dans les mâles fagotés ou dans les mâles attifés? Ben, on trouve beaucoup dans les textes les pauvres et les mendiants. Et là, c'est un topos littéraire que l'on retrouve déjà dans l'Iliade. Dans l'Iliade, tous les mendiants, tous les pauvres ont la même apparence. Des haillons. C'est jamais des vêtements entiers, c'est même pas des vêtements usés. Là, on est vraiment dans le haillon, qui sont généralement crasseux, enfumés, loqueteux, graisseux, parfois faits en peau de bête, même pas en matière tissée. Et souvent, il y a deux éléments qui viennent compléter leurs vêtements crasseux. C'est une besace, bah, c'est toute leur vie et dans leur besace. Et puis un bâton, et le bâton, là, ça ne dit pas le citoyen droit, au contraire, ça dit l'errance, le marcheur en chemin. Et dans l'Iliade, ben, y a un mendiant qu'on connaît bien, c'est Ulysse. Alors Ulysse, en vrai, il n'est pas un mendiant, mais à deux reprises, il est transformé par Athéna, qui le travestit en mendiant, une fois pour qu'il puisse rentrer dans Troie, et puis une fois pour qu'il puisse retourner à Ithaque. Et je vous lis le petit passage sur Troie. Il s'était tout meurtri de coups défigurants. Et on retrouve la transformation du corps comme Ectercite. Il avait sur son dos jeté de vieilles loques. On eût dit un esclave dans la foule ennemie. Parure qui le rend invisible. Le voilà dans la ville et dans ses larges rues. Il se contrefaisait, jouait le mendiant, et ce n'était pas son rôle au camp des Achéens. En cet accoutrement, le voilà dans la ville, tous trois s'y laissent prendre. Il suffit juste de se travestir pour changer d'identité. Mais c'est un travestissement temporaire. Hélène, elle, le reconnaît. Hélène lui donne un bain et y retrouve son apparence de roi. Et cette apparence, on la retrouve à Ithaque. Là, c'est Athéna qui change son apparence physique, ses cheveux, ses yeux, qui le vieillit. Et puis il enfile le texte d'Homère dit de tristes vêtements, de mauvais habits sur sa peau. Mais son corps, là par contre, il peut pas le cacher. Quand il arrive au palais, les prétendants qui occupent le palais depuis des années trouvent quand même que ce vieux mendiant, eh ben, il a des grosses cuisses, il a une grosse poitrine, ben, il a du muscle. Et finalement, le manteau trop petit, trop vieux, ben, ça ne cache pas qui il est. Le mauvais vêtement, comme le beau vêtement ne cache pas le moche qui est dessous, ben, cette vilaine parure n'arrive pas à cacher Ulysse. Et puis, il y a un petit relief de terre cuite qui est conservé aujourd'hui au musée du Louvre et qui montre cette rencontre entre Ulysse et Pénélope. Et c'est une rencontre dans laquelle il y a beaucoup d'émotions. On retrouve Pénélope qui est à gauche, qui est assise, qui a la tête inclinée. Alors, on ne sait pas si c'est qu'elle est songeuse, si c'est qu'elle est triste. Sous le tabouret, il y a un panier. Et le panier, dans l'Antiquité, c'est le panier pour contenir la laine. C'est le renvoi au tissage, mais c'est aussi le renvoi aux vêtements. C'est une manière de nous dire en image, c'est une épouse. Et puis, on voit en particulier sur le bas de son corps, il y a une tunique qui est longue, qui est plissée, qui est recouverte d'un manteau. Elle a une allure typique d'épouse. Et puis, face à elle, il y a un homme debout, avec un corps qui est ambigu, parce qu'à la fois, c'est un corps émacié, il est maigre. Le haut du corps l'est beaucoup moins, puisqu'on voit des muscles. Et l'artiste ou l'artisan a joué sur les deux, l'émaciation et le muscle. Il a un chapeau sur la tête, c'est un chapeau qu'on appelle le pilos. C'est un chapeau qui est souvent porté par les voyageurs. Et puis, il porte son manteau sur l'épaule. Et ce manteau, il n'est pas enfilé. C'est aussi une manière de montrer le corps qui est qui est en dessous. Et si vous regardez, il a aussi on voit ses cheveux qui sortent de son pilos, et il n'a pas de beaux cheveux. Là aussi, c'est le manque d'entretien, le manque de soins du corps. Et alors, il manque un morceau du relief, mais si vous regardez ici, vous avez une main qui apparaît, et sans doute que il y avait un geste d'Ulysse qui essayait de toucher Pénélope, signe de supplication, de reconnaissance. Voilà, on a voilà. Malgré ce vêtement qui ne dit pas son mari, ils vont se reconnaître. Et de façon générale, ensuite, quand on avance dans la chronologie, quand on quitte le monde homérique, dans le monde des cités, les mendiants se reconnaissent toujours au même type de vêtements. Un seul manteau, et c'est souvent précisé dans les textes, ils n'ont que ça, un manteau pour toute garde-robe, panoplie d'hiver, panoplie d'été, et une besace. Et quand on cherche, si je ne vous montre pas d'image, c'est pas parce que j'ai pas pensé à en mettre, bah c'est que dans nos musées, on cherche désespérément ces personnages-là. Alors j'ai des mendiants dans mes sources, mais ils sont toujours tout nus. Ils sont généralement difformes. Et là aussi, la nudité, ça, pour les artistes, ça leur permet de montrer le corps qui est en dessous. Mais ça montre aussi, et puis parfois, c'est peut-être les choix des conservateurs de mettre aussi du beau en vitrine. Il y a peut-être aussi à chercher de ce côté-là. Et dans les textes, par contre, il y a une parure qui apparaît toujours, c'est la crasse, qui est à la fois métaphorique et qui est à la fois physique, alors parfois complétée par la vermine, et ça vient avec une couche qui est supplémentaire. Et c'est vraiment présenté dans les sources comme une couche, et souvent cette couche, elle vient remplacer celle qui est de l'onction. Parce que comme ils ne vont pas au gymnase, s'ils fréquentent les bains, c'est juste pour se chauffer, c'est pas pour se laver, parce qu'ils ont souvent pas les moyens. Donc finalement, au lieu d'être luisant, brillant, ils sont ternes et ternes de poussière et de crasse, ce qui fait qu'il y a sans doute une couleur pour cette parure du corps, bah c'est la couleur de la poussière. Parce qu'on se demande souvent de quelle couleur étaient les vêtements des Grecs, mais eux avaient sans doute une apparence qui était marronasse, grisâtre, une couleur de poussière. Alors dans notre panoplie de gens que l'on reconnaît à leur parure particulière et qui ont tendance à enlaidir, c'est les dépendants. Que ce soit les dépendants communautaires ou les esclaves marchandises, ont aussi des parures qui les identifient et qui souvent disent la domination d'un petit groupe, les citoyens, sur ces personnes. Et parmi les dépendants que l'on reconnaît au premier regard, il y a les dépendants de Sparte, que l'on appelle les ilotes, et pour lesquels je ne connais pas de représentation de parure, mais on a quelques textes. Donc là, c'est un texte du tout début de l'époque hellénistique qui les présente, et qui dit « Les ilotes sont astreints aux travaux les plus ignominieux et les plus flétrissants. On les force à porter un bonnet en peau de chien, cunène, et à se revêtir de la dépouille des bêtes. On leur inflige tous les ans un certain nombre de coups, sans qu'ils aient commis aucune faute pour leur rappeler qu'ils sont esclaves. Bien plus, s'il en est qui dépassent la mesure de vigueur qui convient aux esclaves, on les punit de mort et l'on frappe leur maître d'une amende pour n'avoir point su freiner leur développement. » Et on voit bien, les deux sont associés. Il y a à la fois un corps qu'il faut maîtriser, contrôler, et pour maîtriser et contrôler ce corps, on leur inflige une parure spécifique. Et cette parure dont on les vêt ou dont on les revêt ou dont on les force à se revêtir, ben elle n'est pas dans la parure des hommes libres, qui est le plus souvent en laine ou en lin. Là, c'est la peau animale. Donc on a d'un côté l'agriculture, la technique, le tissage pour les citoyens, et la peau plus ou moins travaillée pour les dépendants. Et alors que les Spartiates vont se reconnaître à leur belle chevelure, on a beaucoup de textes qui disent l'entretien, le cheveu long, le cheveu qui est oint d'huile, bah eux, leur chevelure, elle est cachée, et finalement le poil qu'il y a sur leur tête, c'est pas le leur, c'est le poil d'un bonnet en peau de chien. Et là aussi, en creux, on a la normativité des citoyens spartiates que j'ai essayé de mettre dans un petit tableau. Donc, alors c'est très caricatural, hein, très schématique. Les ilotes, on va plutôt en effet les retrouver dans le monde de l'agriculture, c'est la campagne, la rusticité, voire du côté du citoyen, la sauvagerie. Et puis donc ce qui va avec, la tête coiffée, la cunée en peau de chien, et puis le vêtement. Alors j'ai laissé dans le tableau, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont aux pieds, j'ai des textes où ils sont pieds nus, mais les deux étaient sans doute possibles. Et puis face à eux, au contraire, on a un manteau très reconnaissable pour les Spartiates, qui a un manteau court mais bien porté, qui est le tribone, et puis surtout le cheveu long, bien entretenu, et selon les âges, là aussi c'est un contrôle du corps, cette fois-ci c'est un contrôle du poil, moustache ou barbe, selon les âges. Mais là aussi, à chaque fois, les deux éléments se complètent, et les parures sont des parures. Se vêtir, c'est aussi un signe politique. C'est pas seulement un signe de mode, c'est pas seulement un signe statutaire, mais le vêtement ici devient un signe politique. Le tribone, c'est le vêtement du libre, le vêtement de celui qui va aller combattre, tandis que bah, le poil, le vêtement rudimentaire, c'est celui qui travaille la terre. Quand on regarde du côté des dépendants, qui sont des dépendants plus individuels, ce que l'on appelle les esclaves marchandises, on va retrouver aussi des parures qui permettent de les reconnaître. Alors, eux, ils ont des vêtements qui peuvent être des vêtements comme à Sparte en peau animale. C'est une petite tunique à Athènes qu'on peut trouver qui s'appelle la katonake, qui est un vêtement qui a une bordure de fourrure. Donc là aussi, c'est une manière de faire que quand on croise un esclave dans la rue, on va aussi le reconnaître pour pas qu'il se confonde avec un libre par son vêtement. Ou alors, il a une tunique courte, jamais le manteau, jamais l'imation, mais le vêtement, que ce soit le vêtement bordé de fourrure ou la tunique courte, c'est pour être reconnaissable, mais c'est aussi pour pouvoir bien travailler. Quand vous êtes avec votre imation, que vous devez bien tenir ou autre, c'est vraiment pas le vêtement du travailleur. Tandis que la tunique courte, elle laisse le haut du corps libre et c'est la liberté de mouvement pour travailler. Et sur les vases et sur les reliefs, on reconnaît sans peine les esclaves. Alors, je vais vous montrer un premier cas. Alors, c'est un esclave célèbre. Alors, il y a beaucoup de débats entre les historiens et les historiens de l'art pour savoir qui est ce personnage. Vraisemblablement, c'est le fabuliste Ésope en discussion avec un renard. Et Ésope, dans les différentes périodes de sa vie, il a eu toute une période où il était esclave. Et la manière de rendre l'esclavage sur la... On est là dans le fond d'une coupe. La manière de rendre l'esclavage, c'est d'abord son corps. Quand vous regardez, il est totalement difforme. On a l'impression, alors on ne sait pas si c'est la tête qui est trop grande ou le corps qui est trop petit, il y a un vrai souci de proportion. Et ce n'est pas un peintre qui ne sait pas peindre, c'est vraiment ça. Il a un crâne dégarni, il a une espèce de barbiche. Et puis là où un citoyen aurait un imation bien drapé, lui, il est roulé dedans. Et là où théoriquement on a un bâton sur lequel on s'appuie quand on est un citoyen, il a cette espèce de petit machin là qui dépasse, et là aussi la parure le renvoie du côté de l'esclavage. Quand on regarde du côté des reliefs, parce que c'est là où on a aussi beaucoup d'esclaves, et je vous ai mis, alors c'est après où je me suis dit j'aurais pu en mettre un entier, je vous ai mis un relief qui vient aussi d'Athènes, qui est ce qu'on appelle un relief votif. Donc c'est lorsqu'on venait demander, ici c'est il provient d'un sanctuaire d'Asclépios, quand on venait demander une guérison et qu'on avait obtenu une guérison du dieu Asclépios, on offrait en remerciement un relief. Et là, ici, on a un fragment, donc il manque toute cette partie-là où on avait sans doute la divinité. Et puis, vous avez une série de personnages. Et si vous regardez, vous en avez des grands. Et puis, il y en a un plus petit, et puis il y en a un encore plus petit. Et même sans avoir les têtes, on reconnaît les personnages au bas de leurs vêtements. Quand je fais travailler mes étudiants en iconographie, je leur dis, mais souvent, regardez pas les têtes, regardez plutôt par en bas. Ce qui dépasse, c'est souvent ce qui permet de définir le masculin et le féminin. Et puis ici, on a sur les reliefs, généralement, on reconnaît les personnages à la taille. Très grand, c'est les divinités. Moyen, c'est les humains. Et puis, plus petit, les esclaves. Et on a même des reliefs où ils sont à la taille des animaux. On peut avoir un petit esclave qui est de la même hauteur qu'un porcelet. Dans la réalité, il ne l'est pas, mais c'est une manière de dire statut social inférieur. Et là, on reconnaît le vêtement qui est roulé à la taille et qui laisse le haut du corps libre. C'est lui qui a amené le porcelet pour le sacrifice. Il a un panier sur l'avant-bras, donc il est bien occupé et il a des vêtements qui sont des vêtements fonctionnels. Alors là, on ne voit pas, parce que j'en ai choisi un où la tête est mal conservée. Le clou de la parure de l'esclave, c'est une espèce de coupe au bol, indémodable, pendant quasiment un millénaire. Alors, je l'appelle coupe au bol parce que dans les textes, c'est le terme qui est utilisé, c'est scaphion, donc ce qui renvoie à une forme de coupe. Et autant on a une mode capillaire pour les citoyens, on n'a aucune mode pour les esclaves. Et c'est aussi une manière de déshumanisation que d'imposer ces parures qui les rendent à la fois reconnaissables et qui, pour des Grecs, les enlaidissent et les privent pour les hommes de ce qui fait théoriquement les éléments de virilité. Alors, j'ai beaucoup tapé sur les hommes. Je vais finir avec les femmes pour ne pas penser que je sois sexiste. Et on a aussi toute une galerie de malatifés chez les femmes. Et là, je vous ai mis un texte alors, d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alcifron, et j'invite toujours à lire Alcifron, qui a écrit une série de lettres fictives. Alors, c'est un auteur d'époque impériale qui écrit des lettres qu'il place dans l'Athènes du IVe siècle. Et c'est des lettres que des personnages fictifs ou quelques-uns réels s'écrivent. Et c'est toujours extrêmement savoureux. C'est souvent acide, souvent comique. Et là, c'est une maîtresse, Léaïna, lionne, qui écrit à son amant, Philodémos. Et cette Léaïna, elle a croisé l'épouse de monsieur à une fête religieuse. Et elle plaint son amant d'être mariée à une telle femme. « J'ai vu ton épouse au mystère, vêtue d'un bel habit d'été. » Les mystères, c'est ceux de Déméter, c'est au mois de mars. Donc déjà, que fait-elle en habit d'été ?« Je te plains, Paraphrodite malheureux, comme tu dois souffrir de coucher avec cette tortue. Quel teint, d'un rouge vermillon. » Là, c'est le maquillage, c'est la couche qu'elle a dû se mettre sur les joues. « Quelle grande boucle elle laisse pendre. Elle ne ressemblait nullement aux cheveux qu'elle a sur le sommet du crâne. » Donc on peut supposer qu'elle a une perruque, ou du moins des postiches de bouclettes, qui sont une autre parure féminine. Quelle quantité de blanc elle s'est appliquée ? Donc c'est le blanc de céruse qu'on se met en grosse couche pour avoir un teint qui rappelle la blancheur des déesses. Et c'est à nous, les étahirs, donc les courtisanes, que les gens reprochent de nous maquiller. Et la suite s'aggrave. Elle avait une grande chaîne, bijou. Elle mérite sûrement de passer sa vie avec une chaîne, mais pas en or, car elle a un visage de fantôme. Et quels grands pieds, comme ils sont larges et mal proportionnés. Ouh là là, embrasser cette femme quand elle est nue, qu'est-ce que ça doit être ? Il m'a semblé aussi qu'elle avait mauvaise haleine. J'aimerais mieux dormir avec un crapaud, dame Némésis. Je préférerais regarder la chimère en face plutôt. Et là, malheureusement, on a une lacune des manuscrits, mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a au milieu, parce que ça se termine avec sa chaîne et ses caleçons. Donc je pense que c'était tout aussi gratiné. Et quand on regarde, tout y passe. Son corps ne va pas, aucune parure ne va. Les vêtements ne sont pas de saison, le maquillage est trop rouge et trop blanc, les bijoux, on peut supposer que si elle parle de la chaîne pour attacher un fantôme, c'est qu'ils sont trop grands, trop lourds. Si elle voit ses pieds trop larges, trop disproportionnés, les chaussures ne doivent pas aller non plus, tout y passe. Et la couleur également ici, donc on a la couleur du maquillage, trop de blanc, trop de rouge. Et puis si vous regardez les comparants animaliers, crapaud, tortue, donc on est dans le verdâtre. Et le verdâtre pour les Grecs, c'est le décoloré. C'est une couleur, chloros, qui renvoie à la perte de texture, perte de forme. Et puis, alors, vous n'avez peut-être pas touché de crapaud. Parfois, on a touché des tortues. Ça a une peau, c'est rugueux. Et on est loin de la poésie érotique où la peau des femmes doit être douce, etc. Donc là aussi, on a une sorte de parure supplémentaire. La mauvaise peau devient une parure enlaidissante. Et le clou, finalement, de... Elle n'a pas approché cette épouse, elle l'a vue de loin, mais elle est capable de parler de son haleine. Parce que c'est normal, elle est tellement laide qu'elle doit être laide de dedans. Et l'haleine, ça porte au dehors ce qu'elle est au dedans. Alors, on a un peu pitié de ce pauvre homme, et on peut supposer qu'elle espère... pas qu'il abandonnera sa femme, et qu'il s'occupera en tout cas un peu plus d'elle. Et ces courtisanes, c'est souvent elles qui sont brocardées dans les textes. Et en particulier, tous les textes disent que quand on est une courtisane vilaine, on peut tout essayer, rien ne marche. Les courtisanes, au contraire, surtout quand elles sont laides, s'habillent entièrement de pourpre, se font un cou tout en or, cherchent des attraits dans la magnificence et compensent ceux qui manquent à leur beauté par des charmes postiches. Elles s'imaginent que leurs bras paraîtront plus brillants, ajoutant l'éclat de l'or, que la difformité de leurs pieds disparaîtra dans une sandale d'or et que leur visage même deviendra plus attrayant si on le voit avec les bijoux les plus brillants. Et là, on retombe sur ce que j'ai dit au tout début, la charis, être belle, c'est irradier, donc on met de l'or, on met de la couleur, ça ne marche pas. Si on est vraiment vilaine, ça ne marche pas. Et pire encore, quand vous êtes vieille, ça marche encore moins bien. Et on a là des séries d'épigrammes qui disent que si on essaie de se tondre la peau, si on essaie de mettre du maquillage, si on essaie de mettre des... ça craque toujours en dessous. Et la laideur, la décrépitude, quelle que soit la beauté des artifices, au contraire, plus la parure est belle, plus le corps, en contraste, paraît laid. Alors là, je vous ai mis un petit peu d'image. Je vous ai mis une vieille qui est célèbre, c'est Géropso, c'est la nourrice d'Héraclès. Alors elle, c'est une cumularde, puisqu'elle est esclave, étrangère et vieille. Donc rien qui va. Et c'est ce personnage-là. Alors, le physique, c'est le physique étranger, simiesque. Et puis le vêtement, on a l'impression qu'elle l'a mal enfilé, il est posé sur son dos. On a l'impression presque qu'elle a une couverture sur le dos. Son bâton n'est pas droit. La met presque le bâton est tordu à l'envers d'elle. Enfin, c'est rien ne va. Pour pas être sexiste, hein, un petit vieux. Je suis restée dans le mythique, dans le mythologique. Là, c'est la divinité qui incarne la vieillesse, Géras. Et ce Géras, il me fait toujours penser au personnage de Théophraste. Il est, alors certes, face à lui, il a un grand baraquet, puisqu'il a le héros Héraclès, qui lui a le vêtement tout comme il faut, sa peau de lion qui est devenue sa deuxième peau. On reconnaît la tête du lion. Là, ce n'est pas un bâton de citoyen, c'est sa massue qui le plante au sol. Et puis, ce pauvre Géras, on retrouve, pensez au corps difforme d'Ulysse, l'émaciation du corps. Lui, il a presque attrapé la bosse de Tersite, le crâne difforme. Et puis, il ne sait même pas le mettre, son pauvre manteau, parce qu'avec ce corps-là, on pourrait penser qu'il se couvrirait. Le manteau est pendouille à l'avant, comme le reste de son anatomie pendouille. Donc, les mots physiques et les mots physiques du grand âge ne peuvent jamais se recouvrir. Alors souvent, les vieux et les vieilles, dans les images, mais beaucoup dans les textes, on les voit beaucoup plus habillés que les autres. Alors là, il y a le cas de Géras qui laisse un peu apparaître son corps, mais souvent, les autres ont des couches superposées, beaucoup de vêtements les uns sur les autres, et là, ça renvoie à une manière que les Grecs ont de penser les corps. Ils pensent les corps animés par un principe thermodynamique, qui est la pepsis, qui est une sorte de coction, de cuisson. Et quand on est, on a la pepsis, la cuisson qui augmente. Le pic de cuisson, c'est à l'adolescence. C'est le moment où ça bout, ça ébullitionne. C'est le moment ensuite, on a un plateau à l'âge adulte. Et puis, on commence à refroidir. Et donc, ne me faites pas rire, s'il vous plaît. Les personnes âgées donc, ont froid. Et c'est pour ça que les artistes, parfois, ne vont pas forcément montrer leur corps vieux, mais vont leur mettre plein de vêtements. C'est une manière de dire, comme ils ont froid, ils sont vieux. Donc, voilà. Et puis, la pepsis, quand elle s'arrête, c'est le dernier refroidissement et c'est la mort. Hop. Voilà. Je vous ai mis un masque de théâtre. Voilà, dans les manières de dire les personnes âgées, il y a le vêtement, et au théâtre, il y a le vêtement et le masque. Alors là, c'est des masques de terre cuite qui reprennent des masques qui, eux, sont en d'autres matières. Mais pour montrer la vieille femme, il y a le voile de couleur et l'excès de maquillage, de blanc, de rouge. Et on ne sait pas ce qui est le pire, si c'est la peau en elle-même ou ce qui recouvre la peau. Alors pour conclure, on peut dire que si finalement la laideur apparaît dans les textes, peut-être un peu plus qu'on ne le pensait. Et en tout cas, moi, elle apparaît plus que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Ce qui m'a beaucoup marqué dans mes travaux, c'est qu'elle est rarement que physique. Elle est toujours, pour les Grecs, associée à autre chose. Le physique dévoile les véritables apparences. Elle est ou elle aide celui ou celle qui est mauvais ou mauvaise, celui qui contrevient aux règles. Trop ou pas assez de ceci ou de cela. Et finalement, le corps qui porte un manteau trop court, trop long, un maquillage trop épais, trop gras, trop coloré, renvoie avant tout à une inconvenance, une incapacité à savoir paraître en public. Et contrairement à la beauté qui peut se magnifier, la beauté, elle est difficile à contrefaire. On le voit avec Ulysse. Ulysse, il est beau parce que c'est un héros. Et quoi qu'on lui mette sur le dos, ben, y a toujours du beau qui ressort. Pour Lélée, c'est le contraire. La laideur, quoi qu'on fasse, même avec des beaux vêtements, même avec des vêtements exceptionnels, ben, c'est tout à fait impossible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, même avec des beaux vêtements. Et là, je ne vous ai mis qu'une petite statuette, mais c'est une série que l'on... Là, par contre, que l'on voit assez fréquemment dans les musées, c'est ce que l'on appelle les grotesques. Et avec ces petites terres cuites, qui sont souvent... moi, je les trouve toujours touchantes, parce que c'est aussi des personnages un peu différents. Il peut y avoir des acteurs de théâtre, des esclaves, des nourrices, des personnes plus âgées. Et il y a toujours quelque chose qui sort du vêtement. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il leur arrive, bah, ça déborde toujours. Et ça montre aussi que bah, la parure, elle ne peut jamais cacher ces personnes. Alors, si on essaie par contre de réfléchir aussi du côté des sentiments que ça pouvait provoquer, parce que là, ce soir, j'ai vu ça, c'est aussi la manière dont je vous ai présenté, ça fait rire, surtout, ça fait sourire. Bah, dans l'Antiquité, c'est la même chose, mais dans ce qu'on trouve, dans le ressenti, il y a beaucoup le dégoût. On est dégoûté face à ces gens, bah, en effet, ils sont crasseux, ils sont sales, mais même s'il n'y a pas la mention de la crasse, il y a du dégoût, parce que très souvent, cette laideur vestimentaire, elle se rapproche de la pollution. On a peur qu'elle soit contaminante. Donc il y a aussi ce côté dégoût, on s'en tient éloigné, parce qu'on ne voudrait pas que ça nous attrape. Et donc voilà, dégoût, un peu la honte. Quand on fait parler, je pense à Ésope, quand des auteurs font parler des laids ou des laides, des mal habillés ou des mal habillés au féminin, ils ont honte d'être comme ça. Et puis, il y a beaucoup le rire. Et le rire, chez les Grecs, il est cathartique. C'est une manière de se protéger d'eux. C'est, en riant du laid, on espère que ça ne nous touchera jamais. Et ce qu'on essaie surtout, c'est de surmonter sa peur et d'espérer que l'autre, il est toujours plus laid que nous. Ça, c'est toujours quelque chose d'important. Et puis, finalement, reste une dernière question. Quelle est la réalité de ces laideurs? De la même façon qu'on peut se demander quelle est la réalité de ces beautés. Je pense que si on se baladait dans une rue d'Athènes au 5e siècle avant notre ère, on ne croisait pas que des Apollons. Il devait y avoir quelques Ésope, quelques... Certes, il y avait Socrate, mais il ne devait pas être que deux à être vilains à l'époque. Mais la laideur, elle est sans doute aussi un procédé rhétorique. C'est un procédé pour attaquer les personnes. Et bah, comme la beauté, elle est question de normes et de subjectivité hier et aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.
Archéo. Le cycle de conférences des mercredis de l'Antiquité au Musée Fabre, le jeudi à 20h30 sur Divergence FM.
Les archéologues, ils sont un petit peu laboureurs, un petit peu chineurs, un petit peu collectionneurs, un petit peu historiens, un petit peu sociologues, un petit peu poètes. Et avec toutes ces activités, ils ont fait une discipline scientifique, l'archéologie. L'archéologie grâce à laquelle nous pouvons partir à la recherche des civilisations enfouies et enfouies.
De la tête aux pieds, la parure dans l'Antiquité sera le thème de cette nouvelle saison.